il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est une nécessité. C'est une nécessité.
We want people to know that it's everyday people who change the world.
Nous sommes Radia, Maud, Floriane et Marie. On est musulmanes, juives, agnostiques et catholiques. On a parcouru le monde à quatre pendant 10 mois et à travers 13 pays.
I'm Brazilian.
In Los Angeles.
Mexico.
South Africa.
Habitant de l'île Maurice.
In Uganda.
Indonesia.
C'est ça la Calédonie.
On a tendu nos micros à des activistes, des citoyens et citoyennes, des responsables religieux et politiques qui s'indignent, espèrent et agissent ensemble.
Eu sou Patrícia Tomaski.
Me chamo Josafat.
Graciela. Elias.
My name is Parker.
Jason Chu.
Jaffa.
Moi c'est Anouchka.
Bert.
Naftar.
Esme Monarouk.
Tamar.
Avec Je crois que la Terre est ronde, embarquez avec nous chaque semaine dans un nouveau pays. À travers nos quatre regards, on vous partagera des voix inspirantes et porteuses d'espoir pour construire la paix ensemble.
Salut! Gros bisous! Merde, non, c'est tout.
Salut! Et comme on dit ici,
Selamat pagi!
Moi c'est Floriane et aujourd'hui on vous emmène en Indonésie. L'une de nos premières impressions en arrivant à Jakarta, la capitale, c'est l'immensité avec des immeubles gigantesques à perte de vue et des embouteillages. Mais l'Indonésie, c'est aussi 13 500 îles avec plus de 270 millions d'habitants et d'habitantes. Dites-vous que pour aller d'un bout à l'autre du territoire, c'est comme si on se déplaçait de Londres à Bagdad. On est resté 3 semaines en Indonésie, d'abord sur l'île de Java, à Jakarta, Salatiga et Yogyakarta, puis quelques jours sur l'île de Bali. L'Indonésie, c'est un pays à 85% musulman, et on en entend parfois parler en France avec des reportages alarmants sur l'application de la charia, la loi islamique, sur quelques îles. On en entend aussi parler pour ses plages paradisiaques où les surfeurs et surfeuses adorent aller. Mais l'Indonésie a une diversité incroyable de spiritualité et de religion. Des spiritualités locales et autochtones, l'islam bien sûr avec de nombreux courants, mais aussi le protestantisme, le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme ou encore le confucianisme. L'Indonésie connaît aujourd'hui de nombreux défis. D'abord, créer une unité nationale basée sur les droits humains au sein de ces îles très éclatées. Ensuite, on y observe une montée des fondamentalismes religieux et le développement récent d'actes terroristes qui inquiètent aussi bien les autorités que les associations. Avec cette grande diversité, le défi de l'inclusion de tous et toutes est majeur, aussi bien pour les spiritualités autochtones que pour les femmes et aussi pour la communauté LGBTQIA+. À tout cela s'ajoute un défi écologique immense avec une capitale qui est en train de sombrer sous l'eau et où les populations doivent être déplacées. Alors, comment un archipel aussi grand et avec autant de défis humains et environnementaux peut-il tenir? Comment les associations interreligieuses et interconvictionnelles sur place s'emparent de ces sujets? Pour le découvrir, embarquez avec nous sur cet état archipel, à la rencontre des initiatives humanistes, de celles qui se battent pour l'inclusion et de celles qui prennent à bras-le-corps le défi environnemental. Pour commencer, on a voulu comprendre comment cet archipel si divers pouvait tenir, on a voulu comprendre comment l'unité était créée au sein de cette diversité religieuse et culturelle. Toutes les initiatives nous ont parlé de la devise de l'Indonésie, le Pancasila. Alors Maud, toi qui as un peu travaillé dessus, c'est quoi ce Pancasila ?
Le Pancasila, c'est la base de la philosophie indonésienne. Pancha, ça veut dire 5, et Sila, ça veut dire principe. Donc c'est les 5 principes les plus importants pour le pays. Le plus surprenant pour les Occidentaux, c'est peut-être le premier, la croyance en un Dieu unique. Tous les Indonésiens et Indonésiennes doivent s'identifier à une religion reconnue, et c'est écrit sur leur carte d'identité. Puis les valeurs suivantes sont des valeurs qu'on connaît un peu plus, comme l'humanisme, l'unité, la démocratie et enfin la justice sociale.
Et en plus de ces valeurs du Pancasila, les activistes nous ont aussi beaucoup parlé du grand mouvement de Gus Dur. On est même allé à la rencontre de sa fondatrice, Alisa Wahid.
My name is Alisa Wahid. I'm from Indonesia. I'm 50 years old this year.
Marie. Ouais, en effet, Gus Dur, c'est le nom populaire sous lequel est plus connu Abdurrahman Wahid. Il a été président d'Indonésie et était un intellectuel musulman, une figure de l'opposition à la dictature qui a sévi en Indonésie entre 1967 et 1998. Et du coup, on est allé interviewer sa fille, Alisa, qui nous l'a décrit comme un champion de la démocratie, des droits humains et de l'interreligieux. Il a porté beaucoup d'espoir et de respect chez des millions de gens. Donc quand il est mort en 2009, les personnes des groupes minoritaires ont demandé à la famille Wahid vers qui elles allaient pouvoir se tourner maintenant et qui allait pouvoir les protéger. Et c'est ainsi qu'Alissa a lancé le mouvement Gousdourien Network, un réseau de citoyens et citoyennes qui non seulement promeut le pluralisme religieux en Indonésie, mais il mobilise aussi les populations locales lorsque les communautés marginalisées sont attaquées.
Peace without justice is only an illusion. So you need to work on the justice first before you really have a sustainable peace. You cannot have peace with declaration of solidarity among religious leaders. That's not enough. We have to work through the system and the structure. So these are the things that we continue to work on. We want to establish a just and peaceful society where people can live in harmony with one another based on the principle of respect.
Donc en gros, ce sont des milliers d'Indonésiens et d'Indonésiennes qui se sont retrouvés dans cet héritage des valeurs de Gousdour, au point où ils et elles se surnomment les Gousdouriens et Gousdouriennes. Et on a pu sentir une vraie inspiration de la famille Wahid chez beaucoup des jeunes activistes qu'on a rencontrés qui portaient même des suites du mouvement, et chez les moins jeunes qui nous en ont tous parlé. Donc en gros, Gousdour, c'est vraiment la base.
Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, le mouvement Gousdour et les valeurs du Pancasila inspirent beaucoup les actions gouvernementales.
Radia.
On a eu l'occasion aussi de rencontrer Fertiana, qui a d'ailleurs fait ses études à Aix-en-Provence. Elle se rappelait de quelques mots de français qu'elle a pu glisser pendant l'entretien.
Good noon, good day, good afternoon, bonjour.
Elle a travaillé longtemps au ministère des Affaires religieuses en Indonésie et on lui a demandé un peu ce que faisait le gouvernement justement concernant l'interreligieux. Et il s'avère que le gouvernement met en place des politiques publiques importantes pour que l'Indonésie soit un exemple pour l'interreligieux dans le monde. Ils ont créé notamment un concept de modération religieuse qu'ils aimeraient pouvoir exporter un peu partout, qui veut dire que les institutions religieuses doivent le plus possible être le moins exclusif possible. Pour le gouvernement, mettre en place le concept de modération religieuse, c'est refuser l'exclusion des autres. Et pour mettre en place ce concept, pour le diffuser le plus possible, le gouvernement invite régulièrement différents responsables de culte pour leur demander leur avis sur des lois. Ils ont même mis en place un centre d'harmonie religieuse. Ils font des formations. Bref, le gouvernement agit beaucoup sur le sujet. Et d'ailleurs, la société civile le reconnaît. Enfin, les différentes organisations qu'on a rencontrées nous en ont parlé.
Alors dans ce contexte, on a voulu voir comment des initiatives mettaient en pratique l'unité de la nation indonésienne et ses valeurs de tolérance et de respect.
Marie, on est allé à la rencontre de Maiske de Sabang Merauke.
So my name is Maiske, I'm the one of the co-founders of Sabang Merauke.
Et c'est hautement symbolique parce que Sabang, c'est la ville la plus à l'ouest de l'Indonésie et Merauke, la ville la plus à l'est. Et c'était pas gagné de pouvoir l'interviewer, car avec le Covid, toute l'équipe est en télétravail et tout le monde s'est dispatché un peu partout en Indonésie, donc il n'y a plus personne à Jakarta. Et ça aurait été trop dommage de manquer cette initiative, donc Sabang Merauke, car elle était portée par des jeunes et c'est vraiment un truc incontournable, quoi. Donc, comme d'hab, avec Interface Tour, on a vachement de chance et on a eu la bonne surprise que Maiske vienne passer quelques jours dans la capitale pour des vacances et des rendez-vous. Maiske, elle est issue de la minorité chinoise chrétienne et c'est l'une des 7 cofondatrices et cofondateurs de Sabang Merauke. Et à travers l'organisation, ils et elles veulent que les jeunes soient plus à l'aise et respectueux de la diversité. Donc c'est pourquoi ils et elles ont lancé un programme d'échange entre 15-20 jeunes de 12 à 16 ans qui viennent des différentes îles de toute l'Indonésie et avec des parcours et des religions différentes. Et donc pendant 3 semaines, les ados participent à des ateliers éducatifs, ils sont accueillis dans des familles et sont suivis par des mentors.
For the whole 3 weeks, they are learning about the nationalism, about the values of diversity, like the tolerance and about the education. And then they will come into like having dialogue with the leaders of Jakarta, for example, like the governor. We went to the Ministry of Education too. And then for weekends and in daily activities, they are interacting with their own host family.
Par exemple, un jeune musulman est accueilli par une famille bouddhiste et accompagné par un mentor catholique.
Because we are trying our best to like a matchmaking them.
Et avec le Covid, tout a dû être adapté en ligne évidemment, mais ça continue de marcher et Sabang Merauke fait même du conseil auprès du ministère de l'éducation indonésienne et des enseignants sur les meilleures pratiques contre l'intolérance.
Floriane.
Ouais, j'ai trop aimé cette initiative parce que ça m'a rappelé un peu les échanges avec des correspondants ou correspondantes qu'on peut avoir parfois au collège et aussi en fait les expériences qu'on a pu avoir pendant le tour du monde avec les familles ou les communautés religieuses qui nous ont hébergés. Parfois, les familles elles peuvent être catholiques, bahaïs, musulmanes, juives ou non religieuses, avec des nationalités et des parcours de vie super divers. Et vraiment, faire l'expérience d'une immersion au quotidien avec ces familles ou ces communautés religieuses, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Parce que les liens, ils se tissent sur le temps long, dans le silence, l'observation et dans les discussions, les activités en commun.
Radia.
Mais d'ailleurs, justement, souvent, les correspondants et les correspondantes, c'est dans un autre pays. Enfin, il y a souvent en France, t'as des correspondants et des correspondantes en Allemagne. Et je trouve ça fou qu'il faille des correspondants et correspondantes du même pays. Ça nous fait percevoir l'immensité de l'Indonésie, quoi.
Marie. Et le déclic d'engagement de Maïske, il s'est fait progressivement en grandissant. Elle nous a parlé de préjugés, mais à la fois qu'elle peut avoir sur les autres, mais à la fois aussi de ce qu'elle a pu avoir sur elle. Et c'est ça qui lui a fait prendre conscience vraiment des questions d'identité. Et par exemple, les Indonésiens chrétiens d'origine chinoise, c'est une minorité en Indonésie et qui est perçue comme plus riche. Et donc souvent, ils deviennent les boucs émissaires des problèmes de l'Indonésie. Et donc Maïske a été dans un collège privé et c'est seulement en allant à l'université publique qu'elle discute avec des femmes musulmanes alors que c'est la majorité de la population. Donc vraiment, je trouve que ce programme, c'est vraiment inspirant. Et vu la situation en France entre les campagnes, les villes et les banlieues, ça serait hyper intéressant de développer ce genre de projet entre des collégiens de différentes zones géographiques aussi, quoi.
Maud.
Maïske nous a raconté la rencontre de deux jeunes filles, une du Sulawesi et une de Sumatra, une musulmane et une chrétienne. Et elles ne s'étaient jamais rencontrées avant, elles n'avaient rencontré personne d'une autre religion. Donc petit à petit, elles ont appris à se connaître, à se découvrir. Et elles ont découvert qu'elles aimaient toutes les deux la K-pop, la musique coréenne. Et depuis, elles sont devenues inséparables. Et je trouve que cette petite anecdote, elle démontre finalement beaucoup de l'initiative de Maïske, c'est de se faire rencontrer des enfants qui ne se seraient jamais rencontrés. Elles ont compris qu'elles avaient des points communs qui leur permettaient de créer des amitiés. Et ainsi, elles ont pu petit à petit déconstruire leurs préjugés sur la religion de l'autre. Et cette amitié, en fait, c'est pas juste une amitié entre deux personnes, c'est un pont entre deux communautés qui sont séparées. Et c'est ça la force de Maïske et son initiative. C'est pas juste créer un lien, mais c'est créer un pont entre deux communautés.
Et toutes ces valeurs humanistes de l'État indonésien, on a voulu voir comment elles s'incarnent dans des organisations pour les droits humains.
Maud.
On est allé voir Elga.
I'm Reverend Elga Sarapung.
Elga, c'est une petite femme aux cheveux grisonnants. Elle a étudié la théologie, elle a été révérende dans le Sulawesi, une île au nord de l'Indonésie. Puis elle a voyagé pour ses études à Vancouver au Canada. Elle est à la tête d'une association assez impressionnante, Interfidei. Interfidei, c'est une association interconvictionnelle qui réunit des personnes de toute l'Indonésie, avec ou sans religion, pour la justice et les droits humains.
We need that kind of institute. Everybody could come and we have to give a chance and room, space to everybody who wants to have a dialogue, to meet together and have dialogue.
Pour l'organisation, l'unité en Indonésie, ça se fera pas avec des mots, mais si tout le monde peut avoir des moyens pour vivre dignement. Alors ils ont plein d'actions sur plein de sujets différents.
But how to get peace? Our mission is how people can be helped or survive in their life. And we choose issues. Human trafficking and the second one about climate change.
L'un de leurs chevaux de bataille, c'est de se battre contre le trafic d'êtres humains. Interfidei fait donc partie de ce qu'on appelle le réseau Zero Human Trafficking. Elga, elle nous raconte qu'au large du Timor, depuis 2015, des cargos entiers se déchargent avec des corps à l'intérieur. Il y a toute une mafia derrière qui prend des filles dans des villages, soi-disant pour leur donner une bonne éducation, mais en réalité, ils font d'elles des esclaves. Et parfois des esclaves sexuels. Alors pour arrêter ça, Interfidei a créé une coalition avec d'autres. Pour de 1, sensibiliser le maximum de personnes au problème. De 2, former des journalistes pour qu'ils fassent des enquêtes. Et de 3, créer des abris pour protéger les filles qui ont été soumises à cette mafia. Et enfin, pour faire du lobby auprès du gouvernement pour que ça s'arrête. En plus du trafic d'êtres humains, Interfidei s'attaque aux problèmes de changement climatique. Ils vont enquêter et écrire sur ce qui se passe en Papouasie.
là où les conglomérats s'implantent et détruisent les espaces verts au détriment des peuples papous. Elga nous raconte que c'est si dangereux pour elle d'y aller qu'elle passe par des couvents pour que personne ne sache qu'elle y a été à ce moment-là.
If I went there alone, I will never go to the hotel. But I always find Catholic monastery to be safe.
Ils vont sensibiliser à la question environnementale dans leur centre et vont passer un semestre à sensibiliser les leaders religieux. Franchement, s'il y avait plus d'associations comme Interfidei, on se dit que l'unité rêvée de l'Indonésie ne serait pas un idéal, mais une réalité tangible du quotidien.
Floriane.
Elga, elle m'a tellement impressionnée. On sent vraiment que l'interreligieux, l'interconvictionnel, c'est une partie super importante de sa vie.
We never started with a theory or a concept, but we always started with storytelling based on their experience. Maybe they never met yet another person who are different with them, either by ethnic or by religions.
Elle est passionnée et ça s'incarne dans ses relations interpersonnelles et ses amitiés. D'ailleurs, pendant l'entretien, à un moment donné, elle a appelé un ami musulman. Elle a tout de suite, il a tout de suite décroché. Elle a dit « Salam alaikum ».
Oh, oustad, oustad. Assalamu alaikum.
Alaikum
salam. Hey, oustad.
Et elle a vraiment une persévérance et une détermination dans toutes ses actions qui m'a beaucoup inspirée.
We have to be open, to be honest with ourselves and with the others.
Marie.
Oui, une des actions qui m'a marquée d'Elga et d'Interfidei aussi, c'est l'Interface School, où en gros, donc, pendant tout un semestre, ils proposent à des jeunes ou des futurs leaders religieux ou des citoyens de pratiquer le dialogue à travers l'action. Et donc, ils abordent un thème différent à chaque fois. Donc, ça peut être sur le climat, sur les questions de genre et de sexualité dans la foi. Enfin, voilà, il y a des tonnes de thématiques, de sujets différents abordés à chaque fois. Et en fait, ce que je trouvais trop marrant, c'est que dans leur démarche, à un moment, donc ils travaillent sur les préjugés et ils font un exercice qu'on fait aussi à coexister sur définir quels sont les mots auxquels on pense quand on parle de telle ou telle conviction. Et je trouve ça hyper rigolo de voir que bah, finalement, on a des méthodes hyper similaires d'un bout à l'autre de la planète et ça fonctionne quoi.
Maude.
J'ai adoré la définition d'Elga sur l'interface, donc l'interconvictionnel. Elle disait que bah, le mot interreligieux, c'était plutôt un dialogue entre les institutions et que l'interface, donc cette relation par rapport à la foi, c'était plus une relation de personne à personne. Et je trouvais ça très beau parce que c'est vraiment ce qu'on vit ici pendant le tour, c'est qu'on est là en train de parler à des gens et pas à des institutions. On est là en train de parler à une personne avec un prénom, pas à une religion. Et je trouvais ça hyper fort comme définition.
Interfidei, c'est à la fois une connaissance fine du terrain et des actions ciblées. Une vraie leçon sur l'humanisme et les bases de la société indonésienne. Mais ce vivre ensemble, cette entente entre les communautés, elle est mise en péril par la montée des fondamentalismes religieux. Alors, on a voulu comprendre ce qu'il se passe et quelles étaient les initiatives qui prenaient le problème à bras-le-corps. Pour en savoir un peu plus sur l'état de la cohésion sociale en Indonésie, on est allé à la rencontre du centre de recherche CETERA.
Radia.
On a retrouvé Aikon et Sierra devant les bureaux de l'Institut CETERA. Et c'était cool, on savait pas trop qui on allait retrouver. Mais là, on retrouve deux personnes qui ont à peu près le même âge que nous et c'est trop chouette. Sierra est née et a grandi à Jakarta. Elle est de la communauté chinoise chrétienne. Et Aikon a grandi à Sumatra dans une famille musulmane. On a commencé par un entretien bien sérieux dans leur bureau, on a installé les micros, etc. Et ils nous ont raconté un peu ce que c'était CETERA. Et ensuite, on est allé manger des martabaks ensemble et on a surtout refait le monde, discuté de tout et de rien. D'ailleurs, t'as kiffé les martabaks, Flo ?
Horrible, j'étais malade pendant 4 jours.
Donc les martabaks, juste pour vous dire rapidement, c'est des espèces d'énormes pancakes super gras avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre. Et évidemment, Flo a décidé en plus d'en prendre au Nutella. Donc on a bien rigolé.
Une belle leçon.
Donc pour revenir à l'Institut CETERA, donc l'Institut CETERA pour la démocratie et la paix, c'est un institut qui réunit à la fois des universitaires et des chargés de plaidoyer. Et en fait, les chercheurs et les chercheuses essaient de trouver des indicateurs pour mesurer l'état de la paix, de la démocratie, de l'inclusion dans plus de 95 villes indonésiennes. Donc à chaque fois, voilà, ils travaillent sur différents critères pour mesurer l'état de la paix, la démocratie et l'inclusion. L'Institut publie ensuite un classement annuel à partir de ces résultats. Donc tous les ans, le classement est republié. Et ensuite, les villes qui sont dans ce classement peuvent solliciter les conseils de l'Institut pour améliorer leurs notes. Parce qu'évidemment, ça ne le fait pas si t'es 95e sur 95, quoi. Donc l'Institut donne des conseils pour justement pouvoir passer de 95e à 45e.
So we want equal rights for all Indonesian citizens.
L'Institut joue aussi un rôle d'observateur des minorités religieuses et de la manière dont elles sont traitées par la société. Donc par exemple, l'Institut a travaillé avec la communauté Ahmadiyya, qui est une branche de l'islam qui n'est pas reconnue par beaucoup de communautés sunnites et qui est notamment pas mal discriminée en Indonésie.
Marie. Oui, tout à l'heure, Maud expliquait la philosophie du Pancasila. Et Sierra, du coup, nous a expliqué aussi les conséquences de cette philosophie, notamment du premier principe de croyance en un Dieu unique, où seulement 6 religions et spiritualités sont reconnues par le gouvernement. Donc l'islam, le protestantisme, le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Et ce qui met totalement de côté les personnes de croyance locale, dites local beliefs, et les athées ou les agnostiques, qui sont obligés de cocher une des 6 religions reconnues sur leur carte d'identité et d'aller dans des écoles confessionnelles.
Indonesia is not a religious country, but we see religion as an important part in our daily life. That's why in our ID card we mention religion, because they care so much about religion. Being an atheist is hard. Being an agnostic atheist is very hard in Indonesia.
Et grâce au talk show qu'organise l'Institut Setara, qui a fait témoigner des personnes de croyances locales sur ces situations problématiques, et ben il y a justement des personnes politiques qui sont intervenues et il existe aujourd'hui une case autre que les personnes peuvent cocher. Donc c'est pas une reconnaissance complète des personnes, donc c'est pas un objectif atteint maximum, mais c'est déjà une petite victoire avant la prochaine et ça montre que ça fonctionne. Et pour lutter contre la polarisation des débats ou des idées, Sierra parlait du besoin de créer plus d'espaces de rencontres entre les personnes de différentes religions, mais aussi plus de rencontres en intra-religieux, c'est-à-dire entre des personnes de différentes branches et traditions de l'islam. Donc c'était une rencontre hyper complice avec Sierra et vraiment une initiative incroyable.
I believe that peace is not only the absence of conflicts, but it's a process. So it's not a destination, it's a process that we need to continuously promote. We need to maintain good relations with one another. It's not like just one person trying to promote peace, it's always a collective effort made by everyone.
Radia.
Avec Interface Tour, depuis le début, on essaie de comprendre le rôle de l'outil interreligieux et de l'outil interconvictionnel dans la construction de la paix. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça améliore? Est-ce que ça empire la situation? Est-ce que ça marche à différents niveaux? Est-ce que ça marche au niveau local, régional, national? Enfin, c'est vraiment une question qui nous, ouais, qui résonne en nous un peu tous les jours. On essaye de l'avoir en tête quand on a nos différents entretiens. Du coup, j'étais hyper contente de découvrir l'Institut, de comprendre les méthodologies que l'Institut met en place. Parce qu'en fait, la paix, la démocratie et l'interreligieux, c'est des choses très intangibles. C'est très difficile à mesurer. Du coup, le fait qu'ils trouvent différents critères, je trouvais ça passionnant. Un des critères que j'ai retenu, c'est qu'ils vérifient auprès des communautés religieuses des différentes villes qu'ils évaluent à quel point est-ce que la mairie accède ou non à leurs requêtes pour des permis de construction de lieux de culte. Ça, c'est un des critères. Donc, par exemple, si on a une communauté musulmane où toutes leurs requêtes sont acceptées et par contre une communauté chrétienne où il y a seulement une requête sur deux qui est acceptée, bah, ça fait partie des critères pour mesurer l'état de la paix dans la ville.
Thank you very much. Goodbye.
Face à ces constats, les initiatives se sont multipliées, dont une assez jeune qui nous a beaucoup inspirés.
Marie. Young Interface Peacemaker Community, dite YIPC, est une communauté de jeunes activistes de différentes religions et spiritualités qui a été créée en 2012 par 2 étudiants, l'un chrétien et l'autre musulman, et qui voulait combiner l'éducation à la paix et le dialogue interreligieux. Pour faire ça, ils ont commencé à organiser chaque année un camp interreligieux entre des étudiants et étudiantes des universités musulmanes, catholiques et protestantes. Donc pendant 3 jours et 2 nuits, on vit ensemble au même endroit, on participe à des sessions de réflexion et de discussion sur le rapport à soi, le rapport aux autres, à ce qui nous entoure, en se basant notamment sur la Bible et le Coran. 10 ans plus tard, ça donne 7 antennes de YIPC, présentes dans 7 villes différentes, et un entretien à Yogyakarta avec une bande de potes, Anissa, William, Timothy, Widi, Anissa et Ramat. Ils et elles ont entre 23 et 26 ans, viennent de l'île de Sumatra, de Jakarta, de Yogyakarta, d'une île près de Singapour ou encore de l'est de l'île de Bornéo, et ils et elles sont musulmanes, chrétiens ou de spiritualité traditionnelle. Chacun et chacune est d'abord passé par la case participant au camp avant d'en devenir facilitateur ou facilitatrice.
In this peace camp, every participant is the speaker.
Car le but de ces camps, au-delà d'apprendre à écouter les autres ou de créer des amitiés et de déconstruire les préjugés, c'est bien de devenir des agents de la paix, des agents et des agentes de la paix, et de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant le camp.
After the peace camp, we are expected to be the agent of peace. And we will not repeat the same mistakes that we just did previously.
De s'engager au retour là où on vit, en créant des espaces de rencontre comme des visites de lieux de culte ou des distributions de repas. Autant dire que ça a pas mal résonné avec ce qu'on vit en France avec Coexister.
Yeah, we are just like a bridge to connect people.
Floriane.
Oh là là, c'était vraiment une de mes rencontres préférées en Indonésie. Déjà, je trouvais qu'on sentait vachement l'amitié et la complicité entre elle et eux. La répartition de la parole était super fluide et quand ils et elles décrivaient leurs activités et notamment les camps, j'avais l'impression d'y être. J'étais hyper impressionnée par leur capacité d'introspection, à mettre des mots sur leur expérience d'engagement, leur cheminement. Par exemple, William il nous partageait qu'avant son engagement à YIPC, il pensait que toutes les communautés qui n'étaient pas chrétiennes avaient tort et n'étaient pas des bonnes personnes. Il y a aussi Timothy qui partageait que lorsqu'il voyait des femmes totalement couvertes, il les assimilait directement à des terroristes. Et tous les deux disaient que les peace camps, donc ces camps de la paix, les avaient changés, qu'ils avaient pu déconstruire leurs préjugés et qu'ils avaient maintenant des amis de partout.
All the prejudices that I have are actually untrue.
Anissa et Rahmat, eux, viennent de familles musulmanes strictes. Rahmat, par exemple, il n'avait aucune personne de religion différente autour de lui. Il disait même qu'il détestait ceux qui n'étaient pas comme lui, que ce soit d'autres religions ou même d'autres branches de l'islam. Mais que rejoindre les camps et échanger avec des chrétiens lui a permis de changer de point de vue. Il essaye maintenant de semer des graines au sein de sa famille et de ses amis, en racontant les activités auxquelles il participe et en partageant des informations sur les autres religions. Il se prend parfois des commentaires haineux ou le désaccord de sa mère, par exemple quand il souhaite Noël à des chrétiens ou des chrétiennes. Dans ces moments-là, il lui rappelle qu'il reste musulman même s'il souhaite joyeux Noël. Et à force de patience, sa famille soutient aujourd'hui son engagement.
From my own experience, Peace Camp is like a safe place for me to be open to share and to know more about people with different backgrounds.
Anissa a aussi grandi en voyant les personnes non musulmanes inférieures à elle. D'ailleurs, ses profs et ses parents disaient que les chrétiens étaient des mécréants et qu'ils ne méritaient pas d'être ses amis. En lisant le Coran, elle réalise que Dieu a volontairement créé les humains différents les uns des autres. Elle s'intéresse aux autres textes sacrés et se met à l'épreuve en participant aux Peace Camps. L'expérience de vivre ensemble avec des chrétiens lui fait prendre conscience que les préjugés qu'elle avait étaient faux. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est mariée avec un membre de l'association et il se trouve que ce garçon est hindou.
Radia.
Ouais, Floriane a beaucoup parlé de l'amitié et en fait, de tous les entretiens qu'on a pu avoir, il y en a beaucoup quand on leur posait la question « c'est quoi l'impact recherché de vos organisations ?» beaucoup nous répondaient que c'était l'amitié, hein, c'est quelque chose d'évident, c'est leur objectif, c'est un peu l'impact idéal des organisations interreligieuses et interconvictionnelles. Et en fait, j'étais trop heureuse de le voir en direct.
So even though we are not the same in faith, we are the same in humanity. That's the reason when I see my friends, even though they are different, but they are nice, I love them.
On était témoins de cet impact. Clairement, YIPC a réussi. L'impact, il est visible, il est tangible, on l'a ressenti. Et ouais, pareil, un peu ce que Marie disait, on a eu la chance de vivre cet impact-là aussi au sein de Coexister, de s'être fait des amis pour la vie, et même d'avoir trouvé l'amour en vrai. Et le voir de l'extérieur, c'était vraiment très très beau.
Maud.
J'ai vraiment adoré discuter avec ces jeunes, et surtout parce qu'ils avaient notre âge et qu'ils avaient un peu les mêmes références culturelles que nous. C'est marrant parce qu'on a discuté de séries Netflix et on s'est rendu compte qu'ils connaissaient Emily in Paris.
I can see Emily in Paris.
It's a lot of clichés.
I know. Because it's from American perspective.
Yeah. C'était un peu leur image de la France, alors, avec tous ces clichés. Et quand on nous a demandé, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de clim en France, eh ben, on était morts de rire parce qu'on se disait, bah, c'est un cliché, mais oui, c'est un peu vrai, on n'a pas de clim.
I just wondered that, is it true that there is no air conditioning in France?
Yes, in Paris.
Really?
In Paris.
Oh, in Paris.
In the south of France, there are a lot of air conditioner. You like pointed just the cliché that is not a cliché.
Et on a beaucoup rigolé sur le sujet de cette série et je trouvais que c'était un pont en fait entre eux et nous de se dire ouais on regarde tous un peu les mêmes séries un peu partout dans le monde et c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu de me dire voilà un point commun.
Yeah. Merci
beaucoup. I'll see you guys.
On voit donc que le gouvernement et les associations de terrain prennent à bras-le-corps la montée des intolérances. Mais l'intolérance, elle est aussi parfois envers les minorités. Alors, on est allé découvrir comment les associations interconvictionnelles s'emparent de la question de l'inclusion. Une des premières leçons d'inclusion qu'on a prises vient d'une association qui donne la parole aux communautés autochtones et à la communauté LGBTQIA+. Cette association s'appelle Elkis.
Maud.
Elkis, c'est une association musulmane qui est au plus près des communautés marginalisées pour faire encore mieux entendre leur voix. L'association s'attaque à plusieurs problèmes. La question démocratique, le changement climatique, l'inclusion des spiritualités autochtones et des personnes LGBTQIA+.
So this is really important. This is the key that Elkis always work. Elkis trying to put the development issues, the democratic issues, the diversity issues in public spaces.
L'association, elle promeut des idées de pluralisme politique, de non-violence, en éditant des livres, en distribuant des brochures, dans les mosquées, en ayant une chaîne de télévision et une radio. On a par exemple assisté à un événement où ils avaient invité des personnes local beliefs, donc des personnes avec des spiritualités autochtones, qui existaient avant l'islam, par exemple comme le Kejawen, donc c'est une spiritualité qui était là sur l'île de Java avant l'arrivée de l'islam. Pendant l'événement, on a pu échanger ensemble sur nos bonnes pratiques pour essayer de mieux apprendre les uns et les unes des autres.
How to improve their awareness and knowledge about the climate change. So they're working with youth group, yeah. But Novi and the colleagues also trying to educate people about the fact-checking. So how to ensure that the information are correct or not correct.
Elkis a beaucoup de projets sociaux et écologiques sur la base de l'interconvictionnel. Par exemple, des campagnes de plantation d'arbres, la prévention du VIH chez les jeunes et les adultes et la promotion du revenu des femmes. L'approche de Elkis, elle se veut vraiment inclusive et non discriminatoire. L'association, elle veille au maintien des droits humains individuels et elle défend les personnes en marge de la société, par exemple aussi comme les mères célibataires et les femmes en prison. Ce qui est intéressant dans leur pratique, c'est qu'elles demandent aux personnes de spiritualité locale ce dont elles ont besoin. Ici, par exemple, elles demandent leur reconnaissance comme une religion à part entière pour que dans les écoles, où l'enseignement religieux est obligatoire, elles puissent avoir des cours de religion. Ce qui est intéressant, c'est leur conception de l'aide. Elkis fait entendre des voix qu'on entend trop peu sur les réseaux ou dans les médias.
Try to support those marginalized communities to be part of the meeting and then to share, to be able to voice their needs.
C'est vraiment
une plateforme pour que les personnes marginalisées fassent entendre leur voix. Grâce à Elkis, on a pu rencontrer Rouli Mali. Elle est secrétaire d'une école coranique unique au monde, car elle est destinée aux personnes transgenres.
We're working a lot with transgender. The discrimination faced by transgender mostly about how to obtain the legal identity. And the other issue is persecution.
Rouli nous a raconté les discriminations qu'elle subit dans la société indonésienne et l'importance d'avoir une école coranique pour les personnes transgenres et d'utiliser le réseau interreligieux pour être connue.
Floriane, c'était hyper important pour moi qu'on se déplace dans cette école coranique pour rencontrer Rouli. Parce que parmi les choses qui me mettent en colère contre les religions, il y a leur traitement de la question LGBTQIA+. Et grâce à mon engagement au sein de Coexister France, j'ai pu prendre connaissance d'associations et d'activistes religieux et LGBT. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène pour moi. Donc j'aime bien soutenir leur travail, être témoin de leur solidarité interreligieuse aussi dans cette lutte. Et quand je découvre ce type d'initiative, j'ai envie de leur donner de la visibilité et que le monde entier sache que ça existe. Cette rencontre en plus était d'autant plus symbolique parce qu'elle avait lieu au début du mois des Fiertés en juin, qui est une célébration internationale pour rappeler le combat pour les droits LGBTQIA+. Marie. Oui, ce que je retiens aussi de ces rencontres avec Novi et son équipe de Elkis, c'est la critique de la religion qui est utilisée par les différents gouvernements pour obtenir des votes et que ça pouvait être du coup un obstacle à la démocratie et un outil de division. Mais pour elle et son équipe, la religion fait aussi partie de la solution. L'interreligieux et l'interconvictionnel peuvent être des outils pour coopérer avec et entre les communautés et faire avancer la démocratie et aussi être vraiment une force pour protéger les autres, enfin être des alliés quoi.
So we have to working hand in hand with other people with different religions.
L'organisation se préoccupe particulièrement de l'engagement des jeunes et de la transmission et je trouve ça incroyable de réussir à mobiliser plus de 40 personnes au profil hyper différents, des personnes de croyances locales de tous les âges, des groupes de femmes et de la communauté LGBTQIA+, en 3 jours pour nous proposer un temps d'échange et de bonnes pratiques. J'imagine que c'est vraiment parce que Elkis est un vrai safe space où les gens se sentent bien et on a vraiment pu vivre cette expérience à fond. D'ailleurs, Novi rêve d'organiser un rassemblement international de personnes de spiritualité native et j'espère qu'à travers les relations qu'on a pu tisser au fil du tour dans les différents pays, avec les différentes communautés, on pourra l'aider à atteindre son objectif.
Thank you, terima kasih.
Bye.
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 Yeah.
Indonésie quoi, pays badass.
Ouais, de ouf, gros coup de cœur.
Ouais, et puis c'est des jeunes aussi, cool hein.
Oh là là.
On a vite compris que la ville de Yogyakarta regorgeait d'initiatives progressistes qui réfléchissaient à l'inclusivité des minorités souvent opprimées. On était curieuse d'approfondir la place des femmes dans l'interconvictionnel et l'interreligieux, et c'est donc dans une grande excitation qu'on a rencontré des membres de l'association Srikandi Linta Siman.
Marie. Alors Srikandi Linta Siman, c'est une communauté interreligieuse de femmes. Srikandi, c'est une guerrière parmi les marionnettes traditionnelles de l'île de Java. Et Linta Siman signifie interreligieux. Donc, alors que Yogyakarta a été classée dans le top 5 des villes les plus intolérantes d'Indonésie, Wiwin, une des femmes qu'on a rencontrées, avait remarqué qu'il y avait peu de femmes dans les rôles clés, dans les structures qui mettent en avant la diversité.
The problem is only that women don't have enough space to express their thinking, their feeling, and their ideas because of the gender inequalities.
Et donc en 2015, alors qu'elle anime un atelier pour des femmes jeunes sur les relations interreligieuses, la déconstruction de préjugés et la coopération, à la fin, les participantes sont venues la trouver pour lui dire qu'elle voulait continuer à apprendre sur les autres religions et donner suite à cet atelier.
Itri said that Srili has broke the wall that usually people have toward other religions or differences.
Et c'est comme ça qu'est née la communauté interreligieuse et interconvictionnelle de femmes. Il s'appelle donc Srikandi Linta Siman, aussi appelée Srili en plus court. Esli donc organise des visites de lieux de culte, un programme de soutien à l'entrepreneuriat des femmes, des formations et des ateliers sur la résolution de conflits, du plaidoyer pour la liberté religieuse, des campagnes de sensibilisation et des groupes d'études. On a rencontré Christy, Miss Ni, Wulan, Wiwin, Asani, Fitri et Lana dans l'église protestante où Christy est pasteur. Et cet après-midi entre femmes nous a boosté de ouf.
We have to be optimistic.
Floriane. Ouais, je me souviens m'être dit pendant l'entretien que j'aimerais rester avec elle tout l'après-midi. Et à la question « Pourquoi pensez-vous que c'est important que des femmes soient engagées dans l'interreligieux ?» Christy, elle a répondu une phrase qui peut paraître simple mais qui m'a touchée droit au cœur.
« To make sure that women have space. »
Elle a répondu « Pour être sûre que les femmes aient de l'espace. »
Because for male, there are a lot of spaces, but not for female. That is why we have to create our own. We cannot wait for society to provide us the space. No, we have to create it, right?
Marie, qui était fou dans cette rencontre, c'est de voir les liens de sororité et d'amitié qui étaient évidents. Enfin, chacune encourageait l'autre à la prise de parole, même si elles n'étaient pas forcément hyper à l'aise en anglais.
Say something.
Notre temps par rapport à ça. Christine nous partageait qu'elle s'est donné des petits noms affectueux, alors que d'extérieur, comme elle est pasteur, ben, d'autres personnes pourraient dire que c'était hyper irrespectueux.
So maybe other people will say, oh, she's very... Not polite. Or even rude, but because we have very close relationship, we can do like that. And no offense, no hard feeling, because... We are become family.
Et il y a vraiment une question de passage de leadership, c'est-à-dire que c'est pas la fondatrice forcément qui nous a reçus, mais Christy qui a pris la suite en termes de leadership. Donc vraiment, je trouvais ça très beau et très fort, puissant quoi, de voir ces liens. Et je trouve que c'est vraiment du coup une initiative qui peut contribuer à faire basculer l'invisibilisation des femmes dans les processus de paix vers vraiment quelque chose où on est présente.
I think I want to say something. Just start it. Just start it and start with the small things. Don't be afraid to be small. Because from this small community, we can spread to other people. So just be brave to start it. And find friends who have same idea.
Cette ambiance de sororité, que vraiment le féminisme était comme une évidence. Je crois que c'était Wiwin justement qui disait bah bien sûr, nous sommes féministes, on est toutes féministes ici. Et je trouvais que c'était agréable d'accoler féminisme et évidence dans un entretien comme celui-là.
Take care, bye bye.
Ça va?
Ouais.
Tu t'es fait
mal? Je me suis tapée contre. Trop bien.
C'était ouf.
C'est trop bien.
Quel entretien. Et là c'est parti pour 8 personnes de fête.
Oh là là.
Mais c'est quoi, c'est la journée des gens
nouveaux? Ouais.
J'ai pas assez de concentration. Ah.
Toutes ces associations et initiatives nous ont bluffés. Alors, avec quoi on repart de cette étape indonésienne ?
Marie. Alors l'Indonésie, c'est un pays que je connaissais pas du tout en fait. Je me rendais compte que les seules fois où j'en parlais, c'est en atelier de sensibilisation, enfin en intervention avec Coexister dans les lycées, où on en parle comme le pays où il y a le plus de musulmans et musulmanes dans le monde. Pour déconstruire l'idée que tous les musulmans seraient arabes, quoi. Ben justement, la majorité des musulmans dans le monde viennent d'Asie. Et j'avais pas du tout conscience, en fait, de la diversité et de la réalité du pays. Je retiens de Jakarta le fait qu'il y ait une église et une mosquée en face l'une de l'autre et qu'elles soient reliées par un tunnel ou un parking, enfin, je sais plus trop, mais en tout cas, il y a un lien entre les deux lieux de culte. Et sur la considération des femmes, que vraiment l'interreligieux, ça pouvait être un levier de prise de pouvoir pour elles. Jakarta, pour moi, c'est vraiment synonyme de jeunesse et d'inclusion. Et j'avais l'impression que, du coup, il y avait beaucoup
de problèmes qui étaient soulevés par les associations, mais que il y a beaucoup aussi de solutions qui étaient apportées par la société civile et qui font même bouger le gouvernement et les mentalités. Donc c'est vraiment un pays qui m'a beaucoup inspirée. Je repars avec des questionnements, notamment sur la Papouasie et fait face aux lobbies et aux industries. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, par rapport aux communautés papou. Enfin voilà, ça m'a beaucoup interrogée. C'est vraiment un autre poumon de la planète qui est attaqué, quoi. Et personnellement, vraiment, entre la chaleur, les moustiques et le fait de tomber malade, je me suis rendu compte que j'étais définitivement pas une meuf des tropiques, même si j'ai adoré les paysages, j'ai adoré vivre dans une maison typiquement javanaise, découvrir le pays à travers le regard des jeunes qu'on a rencontrés et leur optimisme. Radia.
Moi, j'étais trop contente de revoir l'Indonésie. J'avais eu l'occasion d'y aller il y a tout juste 10 ans, où j'avais passé 6 semaines sur l'île de Sulawesi, où déjà j'avais pu percevoir un peu les relations entre les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes, parce que c'est une île qui regorge de communautés chrétiennes particulières, notamment dans le pays Toraja. Et du coup, trop heureuse de revenir, trop heureuse de le découvrir avec le prisme Interface Tour. Et je pense que je repars avec une vision sur une grande diversité dans la manière de vivre la religion musulmane. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de débats et d'échanges sur les spectres, le spectre religieux entre extrémisme, fondamentalisme, violence, pas violence, traditionnalisme. Enfin, c'est des débats qu'on entend beaucoup en France. Et c'est la première fois que je voyais qu'eux considéraient l'extrémisme à partir de l'exclusion. Donc non pas dans la manière de vivre la religion, mais à quel point est-ce que tu exclus les autres. Et je trouve que c'est une très belle manière de déterminer l'extrémisme. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de partager à mon retour en France sur ces concepts qui sont mis en place par l'Indonésie. Et puis j'ai beaucoup aimé les discussions qu'on a pu avoir avec Elisabeth, qui était notre hôte à Yogyakarta. Notamment tous les clins d'yeux, donc c'est les clins d'œil avec une petite dimension spirituelle qu'elle nous a partagée. Elisabeth, c'est pas du tout une femme qui est dans la religion à la base, c'est une révolutionnaire, c'est une punk, c'est une justicière, c'est une journaliste. Et puis, en fait, tout au long de sa vie, elle fait des rencontres qui la bouleversent, des rencontres avec un moine bouddhiste, avec un guide spirituel d'une confrérie soufie, et qui vont pas mal bouleverser sa vie. Donc, c'est de voir quand parfois tu demandes rien à la religion, et surtout tu demandes rien à l'interreligieux, à quel point ça peut quand même avoir un impact sur toi. Donc, c'était vraiment chouette, toutes ces discussions.
Floriane.
Oui, je suis assez d'accord avec toi, Radia, sur ce que tu as dit, sur le terme de être modéré dans la religion. Parce qu'en France, je trouve ça super péjoratif. Ça sous-entend que forcément, si on est très religieux, c'est très négatif, mais tant que c'est modéré, ça va. Alors qu'effectivement, l'interprétation indonésienne du propos, c'est en fait, si t'es modéré, ça veut dire que tu exclus pas les autres religions ou croyances. Donc effectivement, ça m'a fait du bien de voir cette interprétation-là de la modération à l'indonésienne. Je remarque que, comme malheureusement beaucoup de pays dans le monde, la question des spiritualités et des peuples autochtones est quand même compliquée. Mais de manière générale, je repars de l'Indonésie avec une bonne dose d'inspiration. Et je suis hyper heureuse d'avoir découvert un peu plus de cette partie de l'Asie dont je connaissais rien du tout. Je retiens l'humidité constante, la nourriture et l'hospitalité des personnes rencontrées. Partout où on allait, on avait au minimum un petit goûter offert, au mieux un repas entier trop bon.
We have tea, we have snacks, we have fruit and we have rice. Wow.
Thank you so much.
This is our culture.
Thank you so much.
Part of hospitality.
Je retiens aussi les longs voyages en bus où d'ailleurs il y avait toujours plein de repas pendant les longs trajets, c'était trop bien. Et en particulier le passage de nuit sur le ferry entre l'île de Java et l'île de Bali. Et d'ailleurs, à Bali, pour finir notre séjour, j'ai adoré la visite à Pujamandala, donc c'est un lieu dans le sud de l'île de Bali, où ont été construits côte à côte une mosquée, un temple hindou, une pagode bouddhiste, une église chrétienne et un temple protestant.
Protestant.
Ok.
Catholique. Bouddhi. Muslim. Islam.
Les leaders religieux de chaque communauté s'étaient tous rassemblés pour nous accueillir chaleureusement et pour nous raconter leurs activités.
Hello.
Hello.
Welcome.
Thank you.
Welcome. Drink first, and after that, we discuss.
Okay. Perfect.
Good.
Okay. Okay.
Monsieur Fagnat, d'être reconnu comme modèle de l'harmonie religieuse, et ils ont ensuite pris le temps de nous faire visiter chaque lieu de culte.
Ah oh là là, c'est une church en extérieur.
Tellement stylé.
Beau. Small gate go to heaven.
Oh là là.
Wow. C'est super mignon de les voir se poser des questions entre elles et eux pendant la visite.
Thank you.
Terima kasih. Thank you.
Thank you for your time. All these places.
Yes, it's our pleasure.
And enjoy your time in Bali.
Yeah,
okay.
Enjoy your time.
It's an
amazing island.
Yeah.
J'avoue, je partais de France avec une idée de l'Indonésie à 90% musulmane, sans vraiment réelle diversité. Et là, vraiment, j'ai l'impression que tous mes préjugés sont un peu tombés un à un. J'ai découvert des courants humanisme. Je connaissais pas du tout le courant de Gusdur, donc cet ancien président de l'Indonésie, et j'ai trouvé ça incroyable que des millions de personnes s'engagent pour le droit des minorités. J'étais impressionnée par Interfidei et le combat d'Elga contre le trafic d'êtres humains, au risque et péril de sa vie. J'étais impressionnée par la rencontre avec Elisabeth, notre hôte à Yogyakarta. Elle a su nous partager sa vie, son histoire, d'une manière assez intimiste et impressionnante. Quand on sait qu'elle a été grand reporter un peu partout dans le monde, qu'elle a eu plein de vies différentes, et elle a écrit des bouquins qui ont été vraiment une aide précieuse pour les spiritualités autochtones en Indonésie, on ne peut que partir inspiré de cette rencontre. Vraiment, l'Indonésie, ça a été un petit îlot d'optimisme dans une société bien pessimiste. Et je repars avec cet optimisme à la maison.
L'Indonésie en chiffres, c'est aussi une visite de la mosquée Istiqlal de Jakarta, du temple de Borobudur, du temple et monastère de Mendut,
un tour des 5 lieux de culte de Puja Mandala,
un déjeuner et une visite du centre avec l'équipe Persik Institute,
un déjeuner et un après-midi avec les partenaires et les organisations de spiritualité autochtone du réseau Elkis,
un déjeuner avec Elga de l'Institut Interfidei,
une conférence sur l'éducation en Papouasie à la Résidence de France,
une messe catholique à l'Annonciature de Jakarta et une messe de Pentecôte,
Interface Tour 5 en Indonésie, c'est aussi
deux maisons d'accueil où on est comme des poissons dans l'eau, chez Odile et Yves, puis chez Elisabeth.
2h30 d'avion, 30 heures de bus et une traversée entre Java et Bali en ferry.
2 heures d'accompagnement avec nos mentors, Lucie et le Fellowship.
Une soirée de rencontre avec des Français et Françaises à Jakarta.
Une dégustation de martabak avec Sierra et Icon de l'Institut Setara.
3 jours de tapas à Bali.
8 nasi goreng, 17 mi goreng, 5 bakso, 4 martabak, 73 morceaux de tofu et de tempeh, 11 caramboles, 2 salaks et 3 bintang.
Ça vous a donné envie d'en savoir plus sur notre étape indonésienne ? Rendez-vous sur notre blog sur www.interfacetour.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode en Australie.
C'est l'enfer de travail.